Il y a une sorte de cohabitation. Il n'y a pas toujours que lui. Il y a des moments, un non. Entre les deux choses, la foi et le manque de foi, il y a une prière. Viens au secours. Quelle confession de foi authentique. Et nous savons très bien que cette histoire se terminait tellement bien. On appelle happy ending. Hein? Happy ending. En français, comment on dit ça? La fin heureuse. Oh, la fin heureuse. Oh, j'aime bien en français aussi. Fin heureuse. Sur je ne sais pas combien de dimanches, hein, 2 ou 3 dimanches, j'aimerais bien vous proposer de méditer quelques confessions de foi. Hein. Dans la Bible, il y a des personnes bibliques, personnages, qui ont proclamé et qui ont confessé leur foi. Je vais essayer de choisir quelques-uns et nous allons méditer ensemble. Dans cette histoire-là, je pense qu'il y a un groupe, un petit groupe, qui pouvait être un peu mal à l'aise et qui n'arrive peut-être, c'est mon imagination, qui n'arrivait pas peut-être à se réjouir complètement car ce groupe, ces personnes étaient préoccupées et ils s'interrogeaient. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien méditer ensemble voilà, quelques paroles. Donc, dans le même chapitre, le chapitre 9 de l'évangile de Marc. Chapitre 9 de l'évangile de Marc, juste 2 versets. Tout à la fin de cette histoire, ce miracle. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Timothée? Ou sinon, je peux lire. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. Ah. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? La réponse de Jésus, nous connaissons très bien, nous connaissons bien, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Oui, en effet, ce groupe de disciples. Tout est terminé. Le fils, il est guéri. Le père, waouh, il était soulagé. Comme nous avons chanté tout à l'heure, ils peuvent maintenant prévoir, imaginer leur bel avenir. Tout le monde est rentré maintenant chez lui. Jésus aussi. Ah, les disciples maintenant. Dès qu'ils se sont trouvés seuls avec le maître, en privé, ils interrogent le maître. Pourquoi, maître, n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Oui, c'était leur préoccupation. Donc, avant de l'interroger, le maître, je pense qu'eux-mêmes, ils s'interrogent. Pendant peut-être tout ce temps-là, pourquoi sommes-nous si impuissants? Dimanche dernier, j'ai terminé mon message en disant « Oh, j'aimerais bien dire merci au papa, au père, parce qu'il était notre porte-parole. » Aujourd'hui, je pense, ces disciples-là, ils peuvent très bien être notre parole, car il nous arrive aussi de nous interroger quelquefois. Hein? Pourquoi n'avons-nous pas pu soit chasser, soit guérir, soit autre chose, hein? Quand il y avait un attentat, hein, excusez-moi, il y a 5 ans déjà, hein, Charlie Hebdo, hein, il avait la phrase qui était le slogan du peuple, c'était quoi? Je suis Charlie. Ce matin, j'ai envie de dire, nous sommes ces disciples-là. Relisons et réécoutons cette histoire, cette fois-ci, à la place des disciples. C'était la période de grandes fêtes, fête des tentes. Jérusalem, il y avait beaucoup de monde. Parmi la foule, il y avait un homme, un papa, qui vient avec son fils vers eux, vers les disciples. Déjà, de son visage, les disciples peuvent très bien lire sa fatigue, son découragement, sa désespérance. Le papa demande aux disciples de guérir son fils. Bien évidemment, les disciples ont voulu guérir le fils et consoler le papa. Hélas, leur vouloir ne suffisait pas, car ils étaient incapables. C'est l'échec lamentable. Cela a provoqué une très grande discussion. Le verset 16 nous dit « Quand Jésus est arrivé, il voyait leur grande discussion. » Et il pose la question à ses disciples « Mais sur quoi discutez-vous ?» La Bible ne nous dit pas le contenu de la discussion, mais je pense qu'ils ont pu discuter comme nous, sur plein de questions. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de manifestations, grèves? Bon, je ne sais pas. D'où vient le mal et aussi la fragilité humaine? Est-ce possible d'envisager un monde sans souffrance? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'était une discussion bien, bien importante. Jésus demande donc à ses disciples, « Mais sur quoi discutez-vous avec eux ?» Même avant que les disciples prennent la parole, l'homme, le Père, s'est précipité de prendre la parole. « J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'en étaient pas capables. » On entend une grande déception d'un père, du père, qui vient de perdre son espoir. On entend même une plainte, voire un reproche de l'incapacité des disciples. Oh, à la place des disciples, oh purée, ça doit être dur, hein? Déjà, eux-mêmes, ils ont bien constaté qu'ils n'arrivaient pas. Et ils ont du mal à gérer, même digérer, leur incapacité et leur échec. Encore. Comme si ce n'était pas suffisant, ils ont dû entendre un tel reproche. Ils n'en étaient pas capables. Ce n'est pas fini. Le reproche vient maintenant encore de leur maître. Qu'est-ce qu'il a dit le maître? Race incrédule, génération incapable de croire. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps encore? Écoutez bien, vous supporterai-je? Oh purée! Un tel reproche s'était souvent adressé au peuple d'Israël, plus exactement la génération de l'Exode, qui était endurcie, désobéissant, révoltant. Est-ce que nous avons commis un péché grave? Ne pas pouvoir chasser l'esprit, mérite-t-il un tel reproche? Sommes-nous si insupportables? Ô maître, s'il te plaît, stop. Il n'a pas dit, ils ne l'ont pas dit. Hein? Et assez rapidement, ils entendent encore une autre parole. « Tout est possible à celui qui croit. » Nous avons déjà partagé. Si on comprend mal, cette parole provoquerait une culpabilité, une culpabilisation. Nous avons déjà partagé. En tout cas, pour les disciples, ça doit être tellement difficile de gérer et de digérer. Peut-être maintenant encore Pierre, Jacques et Jean, eux, ils auraient pu se dire « Oh, qu'est-ce que c'était bien là-haut ? » On aurait dû rester là-haut. C'est quoi là-haut ? Le mont Tabor. Hein? Georges, il a prié une fois aussi dans sa prière pour bénir notre église. C'est le mont Tabor. Le mont Tabor où ils ont vécu un événement extraordinaire. Ils ont vu ce Jésus transfiguré en gloire. Quel décalage entre le monde de la montagne et le monde de la plaine. C'est trop. D'autant plus que les disciples avaient déjà l'expérience extraordinaire de chasser les démons et de guérir beaucoup de malades. Chapitre 6 de l'évangile de Marc. Jésus appela les 12 et se mit à les envoyer deux par deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils sont partis tous. Le verset 13 du chapitre 6 nous dit ceci. Ils chassaient beaucoup de démons et guérissaient beaucoup de malades. Or, pour cet enfant malade, depuis son enfance, pour ce papa désespéré, hélas, ils sont dans l'échec dans leur ministère. Pourquoi ? Pourquoi d'un coup ça marche et d'un coup ça marche pas ? Les guérisons ne sont pas automatiques. Confondus et désemparés, les disciples attendent que tout le monde parte. Ils attendent le moment où ils se trouvent seuls avec le maître pour demander en privé. Ils interrogent le maître sur les raisons pour lesquelles eux n'ont pas pu chasser le démon, alors que Jésus vient de réussir. Seigneur, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous manque ? On ne sait pas leurs attentes exactes. Mais la réponse de Jésus est très simple. Des esprits comme cela, cette espèce de démon, on ne peut les chasser que par la prière. Cette parole aussi, si on ne comprend pas bien, ça pourrait provoquer un peu une culpabilisation, ou sinon un volontarisme humain, en disant « il suffit », ou sinon « si nous n'arrivons pas à, c'est parce que nous n'avons pas assez de foi, c'est parce que nous n'avons pas prié. » Je ne pense pas que Jésus a voulu provoquer ni culpabilisation, ni suffisance humaine. Cette parole, il faut comprendre dans cette parole l'intention de Jésus. Ah, j'ai sauté quelques lignes. J'aimerais bien remonter mes notes. Attendez, vous permettez ? La foi n'est pas un contrat. Dieu, les femmes du Carrefour des femmes, c'est votre devoir. Hein? Dieu n'est pas un Dieu, ce que l'auteur appelle Dieu fonctionnel, comme si Dieu doit fonctionner. Il ne faut comprendre l'intention de Jésus par des paroles. Par de telles paroles, soit tout est possible à celui qui croit, ou sinon, on ne peut que chasser par la prière. Jésus veut nous inviter vers quelque chose. Jésus veut nous inviter à croire toujours davantage. Il nous invite à devenir toujours plus croyants. Jésus nous invite à prier toujours davantage, jamais suffisant. Jésus nous invite à devenir plus priants, plus confiants à lui. Les disciples ont demandé pourquoi ils n'étaient pas capables, pourquoi ils étaient impuissants. Or, Jésus leur demande, est-ce que vous avez prié? Les disciples ont voulu devenir plus puissants, plus compétents, alors que Jésus veut que ses disciples deviennent des hommes, des femmes aussi, de prière. Mes chers disciples, ce n'est pas la question de pouvoir, ni de compétences. Ne cherchez pas le pouvoir, mais cherchez à prier. Il ne s'agit pas d'un enseignement secret, ni d'un exercice spirituel de haut niveau que devait me demander en privé. Ne cherchez pas à devenir un homme puissant ou une femme plus puissante. Bon, il n'a pas dit Christ, bien sûr. Hein. Ne pensez pas non plus que vous étiez en possession d'un pouvoir lorsque vous avez auparavant pu chasser le démon et guérir les malades. Sachez, même croyez, que vous êtes par nature impuissant. Il y a une chose que vous pouvez toujours faire, que vous êtes toujours capable de faire, c'est quoi? La prière. Dans la prière, comme dans le croire, la question de pouvoir est exclue. Plutôt, l'humilité et la confiance. C'est pourquoi dans notre impuissance, dans l'affrontement avec nos limites, c'est notre prière à Dieu. C'est notre appel à Dieu, viens au secours. C'est ça qui devient puissant. Et alors, nous pouvons dire avec Paul, hein, qu'est-ce qu'il a dit Paul? Je suis fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. En effet, quand je suis faible, je suis alors... Amen. Je termine mon partage. Ce qui est assez étonnant dans cet événement, Jésus non plus, il n'a pas prié. Mais bien sûr, il l'a ordonné. Quelle est la prière dans cet événement? Il y a la seule prière, une seule prière. C'était quoi?
Je crois, viens au secours.
Voilà. Donc nous revenons à notre mot d'ordre. Hein. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Le cri du Père, c'est la confession de foi et aussi la prière vraie. Le cri du Père nous donne le premier enseignement sur la prière. La prière doit être authentique. Le Papa, il ne triche pas. Bien sûr qu'il croit à la guérison de son enfant, sinon il ne serait pas venu vers Jésus. En même temps qu'il croit, il ne peut pas s'empêcher de douter. Et il ne le cache pas. Il ne fait pas semblant d'être bon croyant dans le but d'obtenir la guérison. Il dépose tout simplement devant Jésus son ambivalence, à la fois sa foi et son manque de foi. Et il crie, « Viens au secours de mon incrédulité. » Quelle prière authentique et puissante. Ce matin, j'aimerais bien aussi dire à ses disciples, « Oh, grand merci, vous êtes vraiment notre porte-parole. » Pourquoi, comme chez vous, les disciples, à nous aussi, à moi aussi, il arrive de vouloir, désirer d'être plus puissant, vouloir guérir, je pense que c'est très bonne chose, hein? Vouloir chasser le démon, Seigneur, donne-nous aussi ce don, vouloir consoler ceux qui sont désespérés, vouloir partager davantage l'amour. Oui, continuons de prier ainsi. Mais, à un moment donné, il nous arrive de nous interroger. Pourquoi, Seigneur, j'arrive pas à guérir, à chasser, à aimer, à pardonner, à être humble? La réponse de notre Seigneur sera la même. Pyongwan, est-ce que tu as prié? Donc, notre prière, c'est ça, Seigneur, aide-nous à prier. Que le Saint-Esprit, Paul, il a dit ça, le Saint-Esprit soupire quand nous n'arrivons pas à trouver nos mots. Donc, soyons authentiques. Seigneur, une fois, quand j'étais à Florence, il y avait un frère qui venait souvent me voir. Un jour, il a dit, « Tu sais, Pyongwan, je n'arrive même pas à prier. » J'ai répondu, « Oh, quel beau sujet de prière. Quel beau sujet de prière. Hein? Seigneur, aide-nous. » Le Seigneur sait très bien que nous n'arrivons même pas à prier. Mais nous trouver tels que nous sommes devant lui et crier, viens au secours de manque de prier, capacité de prier, je ne sais pas comment on peut formuler. Je termine avec deux, trois citations. Martin Luther, le grand réformateur, il a dit, le chrétien doit prier comme le cordonnier fait des chaussures. Elle est tailleur des costumes. Voilà. Et après, il dit, la prière est le métier du chrétien. Et puis, vous connaissez la communauté des sœurs à Rodberg, non, Rodberg. Ben, j'ai déjà partagé, je pense. Il y avait des catéchumènes qui étaient là pendant le repas, et puis à la fin du repas, les jeunes, tout jeunes, ils ont demandé, mais écoutez les sœurs, mais qu'est-ce que vous faites? Quels sont votre métier, votre travail? Le sœur, chef, la sœur, elle a répondu, notre prière, notre travail, c'est de prier. Au dernier, notre conseil, on a eu aussi le conseil un peu spirituel, on a partagé les besoins que chacun voit, les besoins de l'Église, hein, partager et puis aussi discuter tout cela. C'est vrai, quand on voit certains besoins et puis aussi on voit aussi d'autres, comment on peut dire ça, incapacités, hein, tout cela. Hein. Une sœur qui a dit, écoute, il faut prier. Oui, quelle belle réponse. Hein. À toutes les questions de la foi, je cite, il y a toujours la même réponse. Deux points. La prière. Je termine maintenant par cette citation. Terminons par la Bible. Hein. L'apôtre Jean nous dit, voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Viens au secours. Père, ce cri de ce Père résonne chez nous vraiment dans notre esprit. Et en même temps, Seigneur, c'est exactement ce cri que nous manquons aussi souvent. Seigneur, tu ne sais pas suffisamment crier vers toi, viens au secours. Peut-être dans notre suffisance, dans notre orgueil, quelquefois nous n'avons pas voulu crier à toi, viens au secours. Du coup, Seigneur, on peut comprendre autrement quand tu as dit « génération incrédule », « génération incapable de croire ». Quelque part, Seigneur, est-ce que nous devons croire que nous sommes impuissants ? Mais nous n'arrivons pas croire, surtout maintenant, à nos jours, avec, soi-disant, le progrès de la technologie, combien, Seigneur, l'homme veut-il prendre ta place ? Et du coup, pour cet homme tout puissant, il a du mal à croire qu'il est impuissant. Seigneur, rends-nous davantage humbles et confiants. Rends-nous davantage réalistes par rapport à notre réalité humaine et confiants par rapport à réalité spirituelle céleste que toi, tu nous as offert. Seigneur, oui, apprends-nous à prier. En effet, ces mêmes disciples t'ont demandé aussi, Maître, apprends-nous à prier. Seigneur, tu ne sais pas le sujet de prière de chacun, chacune, mais nous voulons avoir le plus grand sujet communautaire pour chacun et chacune, et pour ton Église. C'est quoi le sujet ? Seigneur, apprends-nous à prier. quand on voit quelque chose qui ne va pas, et alors nous prions. Quelque chose, Seigneur, qui va très bien, et alors nous prions pour dire aussi merci. Chaque foyer, chaque maison, chaque travail, Seigneur, que nous devenions des hommes et des femmes de prière. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous. Pour tous les moments, j'ai négligé l'importance de prière. Ou pour toutes les fois où j'ai prié mal. Seigneur, maintenant encore, cette histoire de ce Père nous apprend comment on doit prier. Seigneur, rends-nous humbles. Nous te prions au nom de Christ qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie et qui prie encore maintenant auprès du Père pour ses enfants. Amen. Je vous invite à prier. Restez en silence. Nous avons donné tout à l'heure nos paroles de salutation, bénédiction à nos voisins. Maintenant, en pensant chaque visage, chaque nom, chaque prénom, voilà, je vous invite à prier pour vos voisins. Je vous laisse. Amen, amen. Merci beaucoup pour vos prières, hein, merci. Nous allons chanter. Ah, ce chant. Majesté, hein, me voici. Ta grâce m'a trouvé, tel que je suis.
Majesté, majesté. amour, je suis transformé en présence de ta majesté.
Me voici confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, je n'ai rien à voir, les enfants, je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté.
Le moment des annonces, nous allons recueillir aussi l'offrande. Merci. Voilà, la semaine dernière, là, qui vient de passer, voilà, c'est à Mulhouse, on avait donc vécu quelques réunions de prière, hein, dans le cadre de la semaine universelle de prière. Hein. Donc lundi et mercredi, à l'église qui s'appelle, apparemment à l'époque on appelait l'Assemblée des Frères, hein, mais maintenant ils ont changé de nom, c'est Réunion Évangélique, donc c'est dans le cadre de CNEF. Vous savez, c'est un petit témoignage, hein, j'étais en train de préparer le message, hein, message qui nous invite à prier. Hein. Lundi, j'étais à la prière. Mercredi, j'étais pas, parce que j'étais à la réunion à Colmar. Vendredi, c'était dans les maisons, c'était Pierre Alain, de l'officier de l'armée salut, qui nous accueillait. Je me dis, oh, j'ai pas encore fini mon message, non, je peux pas y aller. En préparant le message sur la prière.